explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
L'Océanie, bord à bord à l'Evainé. Tu connais ?
Vous avez croyé que j'ai pu regarder les paysages par le hublot ?
Sur France Inter,
j'ai des envies de voyage.
Le temps d'un bivouac !
Le temps d'un bivouac.
Je suis prêt.
Daniel Fievé.
L'univers a vécu plus longtemps sans notre système solaire qu'avec. Il y a 4,5 milliards d'années, quand notre étoile, le Soleil, se forme et que les planètes qui lui tournent autour se dessinent, le Big Bang a déjà eu lieu depuis 9 milliards d'années. Avant notre petit système solaire, d'autres mondes ont existé, des étoiles ont déjà eu le temps de naître et de disparaître. Alors comment et dans quelles circonstances est-il né ? Quel scénario a conduit à la formation du Soleil, des quatre géantes gazeuses, des quatre planètes rocheuses et de notre petite lune à laquelle on doit beaucoup? D'où vient toute l'eau que l'on trouve sur Terre et pourquoi notre planète est-elle si différente de ses plus proches voisines Mars et Vénus? Pour notre premier bivouac cosmique de l'été, nous remontons à l'origine de notre système solaire et partons à la découverte de ses bizarreries et de son histoire.
Le temps d'un bivouac.
Vers l'infini et au-delà.
Sur France Inter.
Bonjour et bienvenue, cet été le bivouac cosmique, ce sera donc tous les jeudis en première heure et aujourd'hui pour partir à la découverte de l'histoire de notre système solaire, nous avons pour guide Sylvain Boulet et Daniel Estrophé. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour à tous et toutes.
Soyez les bienvenus, Sylvain Boulet, vous êtes planétologue et maître de conférence au laboratoire Géosciences Paris-Sud de l'Université Paris-Sud et vous avez coordonné la rédaction du livre « Impact des météorites au cratère » aux éditions Belin. Et Daniel Estrophère, vous êtes astronome à l'Observatoire de Paris et vous dirigez l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides. Vous allez nous dire ce que l'on sait de l'histoire de notre système solaire. Nous sommes en direct et pour adresser une question à nos invités, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du temps d'un bivouac. À 17h, nous ne redescendrons pas tout à fait sur Terre. Nous ferons connaissance avec Dorine Bourneton, première femme handicapée, pilote de voltige au monde. Elle est partie à l'aventure pour une série de documentaires diffusés sur France 5 cet été. L'occasion de faire connaissance avec elle. Voilà pour le plan de vol du jour. Cette émission est réalisée par Anne-Sophie Ladonne et préparée par Alexandre Chaune et Solène Vary.
Les étoiles sont de gigantesques forges qui vont mettre parfois jusqu'à 10 milliards d'années à fabriquer patiemment des atomes en brûlant du carburant.
Le carburant d'une étoile, c'est la matière dont elle est formée, c'est-à-dire essentiellement de l'hydrogène et puis un petit peu d'hélium. La durée de vie d'une étoile dans ce stade qui est assez tranquille finalement dépend de la masse de l'étoile.
Plus une étoile est lourde, plus elle va fabriquer des éléments chimiques lourds. Et le plus merveilleux est que chaque catégorie d'étoiles va ensuite disperser de façon spectaculaire ce matériel dans l'espace. Tout va se jouer au moment fatidique de la mort de cette étoile.
Extrait du documentaire du Big Bang au vivant. Pour que notre système solaire naisse, il a fallu que des étoiles meurent, Sylvain Boulet.
Oui, tout à fait. Avant notre étoile, le Soleil, il y avait d'autres étoiles au même endroit et ces étoiles ont disparu et a laissé finalement de la matière dans le coin, dans notre coin terrestre, dans notre coin du Soleil. Et à un moment donné, on a eu un nouveau nuage de gaz avec plein de matière, plein d'éléments qui existaient auparavant. Et à partir de ce nuage de gaz, on a commencé à former notre Soleil et puis tous les petits débris de roches qui tournent autour de notre étoile.
Mais est-ce que ça veut dire qu'au tout début, les premières étoiles qui se sont formées juste après le Big Bang, il n'y avait pas de planète parce qu'il n'y avait pas encore justement les éléments lourds qui pouvaient les forger, Daniel Estrophé?
Autour de l'endroit où notre Soleil est apparu, il y avait d'autres soleils, d'autres étoiles qui ont explosé, qui ont apporté des matières lourdes. On date d'ailleurs l'âge des étoiles en fonction des éléments lourds qu'elles contiennent. Donc il n'y avait pas de planète au départ dans la formation de notre système solaire, dans la spirale de la galaxie. Mais c'est avec les résidus de la formation du Soleil lui-même, proto-solaire, puis après on forme l'étoile, avec ces résidus-là qu'on va former les planètes qui vont devenir de plus en plus grosses en accumulant le gaz et les poussières qui sont dans l'environnement du Soleil.
Alors il y a donc ce processus central dans la formation des étoiles et des planètes. Je laisse le soin à André Braille, astrophysicien qui nous manque, de nous présenter ce fameux processus.
Un premier processus compliqué et fondamental dans l'ensemble de l'univers, c'est ce qu'on appelle l'accrétion. Accrétion, attention, ça s'écrit avec deux C. Je dis ça parce qu'un jour, j'avais fait un cours à des étudiants qui avaient écrit ça, agrétion. Donc, c'est pas un G, c'est un C. Accrétion, ça veut dire on se rassemble, on fusionne ensemble, etc. C'est un processus général dans l'univers. Ça marche pour les étoiles, pour les galaxies, pour... C'est-à-dire, quand deux corps se rencontrent, qu'est-ce qu'ils deviennent? Nous comprenons très bien que s'ils se cognent très durement, ils se cassent. Mais s'ils se cognent doucement, est-ce qu'ils vont rebondir? Ou est-ce qu'ils vont fusionner? Faut-il mettre de la colle pour qu'ils fusionnent? Ou est-ce que le simple choc y arrive? Et regardez pour le comprendre, quand deux voitures se heurtent à 2 km/h, elles rebondissent l'une sur l'autre, ce qu'on appelle une collision élastique. Mais quand un bateau heurte un rocher, ça fait un trou dans la coque, ce qu'on appelle une collision inélastique. Donc vous voyez, rien que sur Terre, on a déjà quelques questions qui sont posées. Donc l'accrétion, c'est un phénomène très délicat, très compliqué, très difficile, et sur lequel il reste encore beaucoup de questions posées.
L'astrophysicien André Braik, décédé le 15 mai 2016, plus de 2 ans déjà, qui nous manque terriblement. Et il a raison, hein, dans les phénomènes d'accrétion, c'est là que tout se joue et on ne connaît pas encore tout, Sylvain Boulet.
Non, effectivement, l'accrétion, c'est encore quelque chose d'assez mystérieux. Et pourtant, c'est grâce à ça qu'on va faire les planètes. Comment passer de la petite poussière à la grosse planète de plusieurs milliers de kilomètres? Et ça, effectivement, la physique est derrière, on ne comprend pas tout. Et pourtant, c'est grâce à ça qu'on va former des planètes, mais c'est aussi grâce à ça qu'on va détruire d'autres planètes. Ouais. Donc c'est à la fois constructif et aussi destructif.
Alors, combien de temps va prendre ce processus d'accrétion? D'abord, c'est le Soleil. Alors, le Soleil, combien de temps pour la formation du Soleil? On est il y a 4,5 milliards d'années, Daniel Estrofer.
Oui, alors c'est...
Ou ouais, Sylvain Boulet, allez-y Sylvain, ils se font des politesses.
On est effectivement autour de 4,5 milliards d'années. On a daté effectivement la formation du système solaire grâce aux météorites à 4,567, donc 4,567 milliards d'années. On est très précis. Ouais. Et à ce moment-là, on sait effectivement que le Soleil se forme, que globalement, il rassemble 99,9% du gaz qui existe dans le nuage. Et puis, le pouillem qui reste, eh bien, va commencer à nous permettre de former les petites poussières et les grains et qui vont devenir les planètes.
On est précis dans la datation. Comment se fait-il qu'on arrive à dater aussi précisément cet événement si lointain ?
Alors, dans les météorites, on a retrouvé des éléments qu'on appelle les éléments réfractaires, qu'on a pu dater grâce aux différentes méthodes liées aux éléments radioactifs. Et ces éléments réfractaires, qui sont principalement des silicates d'alumine, de calcium, eh bien, ce sont les éléments les plus vieux qu'on ait pu dater et qu'on considère comme étant les premiers grains à s'être formés autour du Soleil. Mmh. Et donc ça, effectivement, ça donne notre vraiment point de départ à 4,567 milliards d'années et à partir desquelles on va former les planètes. Ça ne veut pas dire que la Terre a cet âge-là.
Ouais. Alors, c'est ça. La Terre, elle arrive plus tard dans l'histoire?
Elle arrive plus tard. Il va falloir plusieurs dizaines de millions d'années avant de former des planètes qui sont de la taille de la Terre. Mais ça va à un rythme quand même assez incroyable. Prenons la planète Mars. En à peu près 5-10 millions d'années, on a formé à peu près la moitié de la planète Mars. 5 millions d'années, c'est extrêmement vite. Hein. C'est 4 millions de tonnes par seconde. Imaginez 50 paquebots qui se rejoignent par seconde dans le système solaire. Ouais. C'est énorme, ça va très vite.
Parce que ces morceaux de matière s'aimantent, s'agrègent, se collisionnent. Comment il faut le voir, ça? Ils s'attirent les uns les autres? Alors, ça s'accélère?
Pour les petits grains, il va y avoir tout d'abord les forces électrostatiques qui vont jouer un rôle important pour vraiment les grains millimétriques. Pour les tailles intermédiaires, on ne sait pas trop. Et puis après, pour les tailles au-delà du mètre, eh bien, là, on va effectivement rentrer plutôt dans tout ce qui est force gravitationnelle.
Ouais. Alors ça, c'est pour les planètes rocheuses, hein, les planètes telluriques. Il y a aussi, dans notre système solaire, 4 planètes gazeuses qui sont plus loin et qui sont plus grosses. Elles se forment avant, après, en même temps. Comment ça se passe?
Alors, les planètes gazeuses, effectivement, hein, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, vont se former avant les premières planètes. En fait, tout va se jouer. La formation du système solaire, c'est quelque chose qui joue dans le temps, mais aussi dans l'espace. Et donc, effectivement, tout ce qui va se former proche du Soleil, il va faire très chaud. Donc, on ne va pas pouvoir former, bien notamment, toutes les glaces, etc. Donc, là, on va plutôt avoir des éléments rocheux. Et au-delà d'une ligne qu'on appelle la ligne de glace, là, on va pouvoir commencer à former les premières glaces de méthane, d'eau. Et c'est à partir de ces noyaux-là qu'on va absorber tout le gaz aux environnements qui a été soufflé par le Soleil et à ce moment-là former les planètes géantes. Mmh. Et ça, ce sont les premières planètes qui se forment dans notre système solaire.
Oui. Et alors, est-ce que certains ont présenté notamment Jupiter, qui est la plus grosse planète gazeuse, comme une sorte d'étoile avortée? Est-ce qu'elle aurait pu évoluer en étoile, Jupiter?
Elle aurait pu, mais C'est une histoire de masse, hein, et on a vu que les grosses planètes comme Jupiter vont à nouveau accréter encore plus de masse, de poussière, après créer des satellites autour d'elles. Mais Jupiter s'est arrêté un peu avant d'être assez massif pour créer des réactions thermonucléaires en son sein. Et c'est à partir du moment où une étoile va engendrer des réactions thermonucléaires qu'elle va briller, qu'elle va générer des photons et éclairer un peu tout l'espace.
Donc,
comme une étoile.
Il aurait fallu un peu plus de gaz encore, un peu plus de matière, et Jupiter aurait pu, alors je fais de la fiction, hein, mais s'embraser, et on se serait retrouvé avec un système solaire à deux soleils, comme il en existe ailleurs dans la galaxie.
Tout à fait, hein, il peut très bien y avoir des systèmes à deux soleils ou à deux étoiles qui en plus contiennent des planètes. On en a découvert finalement beaucoup de systèmes extrasolaires contiennent deux étoiles ou deux soleils.
Ouais. Alors pour finir de planter le décor, entre ces quatre géantes gazeuses et les quatre planètes rocheuses, il y a ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes. Alors ça, comment il faut le voir? C'est une planète qui a raté, là aussi, l'accrétion ne s'est pas complètement terminée, et puis on a comme ça une ribambelle de cailloux qui continue d'orbiter autour du Soleil.
Alors effectivement, on pensait même au départ qu'il y avait là une planète qui aurait pu être brisée. Oui. C'est peut-être essentiellement dû à des effets gravitationnels. Hein. Il faut voir que tout ce qui tourne autour du Soleil, le Soleil est le corps principal dans cette histoire, mais beaucoup de choses sont liées par la gravitation, hein, donc ce qu'avait montré Newton. On va beaucoup parler de gravitation tout au long de cette émission, donc c'est pas des aimants, c'est pas autre chose, mais le Soleil et Jupiter sont les deux corps massifs et ceux qui engendrent les forces gravitationnelles importantes. Et entre Mars et Jupiter, eh bien, il y a des zones où finalement on n'a pas pu accréter. Les vitesses étaient beaucoup trop importantes, hein, comme le disait André Braik, ce phénomène d'accrétion. Lorsque la vitesse est trop grande, on n'arrive plus à former des objets plus grands. Et on reste là avec l'ensemble des briques élémentaires qui étaient là au moment de la formation du système solaire.
Mais maintenant, il est plus temps, il est trop tard pour que ces astéroïdes s'accrètent et donnent une planète. Pourquoi ça ne peut plus se faire maintenant?
Parce que les vitesses de collision, les vitesses lorsque ces deux astéroïdes se rencontrent sont très fortes. Elles sont de l'ordre de quelques kilomètres par seconde, 5 kilomètres par seconde en moyenne. Et donc ça devient difficile là de faire encore d'engendrer des processus d'accrétion.
On va s'intéresser aux particularités de notre système solaire et à ses bizarreries dans un instant. Nous sommes en direct et pour nous adresser un message ou une question, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow.
Perfect Day, c'était Lou Reed sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Vous m'entendez bien?
Ah non, non, 2/5.
Et comme ça?
Ah, comme ça, parfait.
Bon, alors cap sur le Soleil. Vous survolerez d'abord Vénus, Mercure,
oui.
Puis demi-tour, et vous vous éloignerez de la Terre pour aller vers Mars, Jupiter, Saturne, Titan, oula, Pluton et retour.
On ne peut pas alléger un peu le programme?
Prêt?
Prêt.
Démarrage, séquence d'allumage.
Et non, on n'allège pas le programme. Nous partons à la découverte de l'histoire de notre système solaire avec le planétologue Sylvain Boulet et l'astronome Daniel Estrofer. Pendant longtemps, les astronomes ont pensé que notre système solaire était très classique, une sorte de modèle standard. Même avant que l'on trouve les planètes hors du système solaire, les fameuses exoplanètes, on se disait que quand on en trouvera un jour, eh bien, elles seraient organisées à peu près de la même manière que l'est notre système solaire. En fait, il semblerait que ce soit pas si simple et que notre système solaire soit relativement exceptionnel. Est-ce que c'est vrai, Daniel Estrofer?
Oui, il y a pas mal de particularités sur notre système solaire avec ses planètes gazeuses et planètes telluriques. On s'est rendu compte en regardant parmi les systèmes extrasolaires qu'il y avait des planètes gazeuses très proches des étoiles. Et ça, c'était quelque chose d'assez surprenant. Et on s'est rendu compte aussi une chose qui, ma foi, finalement, n'est pas si surprenante que ça, que les planètes dans notre système solaire, certes, on sait qu'elles ne restent pas exactement toujours à la même place, mais qu'il y a eu des phénomènes de migration, donc de déplacement, de changement des orbites, de changement de la distance de ces planètes au Soleil, très importante. Mmh. Et en particulier dans notre système solaire, alors j'ai dit tout à l'heure, hein, les deux grands champions sont le Soleil, lui, c'est un...
Hors catégorie.
Hors catégorie, d'ailleurs, c'est une étoile, c'est pas une planète. En termes de masse, ça n'a aucun rapport avec les planètes. Mais ensuite, deux grandes planètes gazeuses, que sont Jupiter et Saturne, jouent un rôle assez important aussi. Et au cours de l'évolution, hein, un peu après la formation du système solaire, au cours de cette évolution, elles sont rentrées en résonance dynamique. Alors à nouveau, et phénomène gravitationnel, ce qui a fait que une résonance fait que l'ensemble des orbites de tous les objets du système solaire, en particulier nos astéroïdes et autres planétoïdes, ont été complètement chamboulées, elles ont complètement changé leur distance. Et Sylvain Boulet disait tout à l'heure que tout ce qui est près du proche du Soleil, où il fait chaud, sont des matériaux réfractaires, etc. Ces matériaux-là ont pu être transportés à des régions externes. Mmh. Et de la même manière, des objets qui étaient formés dans les régions lointaines derrière Neptune, qui étaient des corps plutôt glacés comme des comètes, etc., ont pu être ramenés vers des régions internes. Donc ça a été un grand chambardement.
Autrement dit, on a ces deux géantes gazeuses qui ont un petit peu fait la loi de l'organisation de ce système solaire en se rapprochant du Soleil, puis en s'en éloignant à nouveau et en faisant une partie de ménage sur les orbites. Si je le dis avec des mots un peu simples, ça revient à ça.
Oui, c'est un gros ménage, mais disons peut-être, ou alors un autre mot un peu simple, c'est la grande lessiveuse. Hein, ça a quand même beaucoup secoué. Hein, c'était.
Oui. Mais alors ça s'est passé pour nous, pour notre système solaire, et ça n'a pas eu lieu ailleurs.
Alors il y a sans doute eu, justement, il y a eu beaucoup de migrations dans les autres systèmes. C'est des interactions aussi entre les planètes et le nuage gazeux encore, ou le disque protoplanétaire. Mais après, on ne sait pas exactement si ce même passage en résonance entre des planètes gazeuses a eu lieu dans les autres systèmes extrasolaires. D'ailleurs, on ne connaît pas l'ensemble des planètes dans les autres systèmes extrasolaires.
Sylvain Boulet, ces grosses planètes gazeuses, est-ce qu'on est sûr qu'elles ne sont faites que de gaz? Est-ce qu'à l'intérieur, au cœur des géantes gazeuses, il n'y a pas quand même du dur, de la matière?
Non, effectivement, on pense qu'effectivement, il y a du dur, il y a certainement, justement, tout à l'heure, je disais que les premiers petits corps à s'être formés très loin, c'était peut-être de la glace, de méthane, d'eau, et on a certainement un corps, un noyau qui a permis d'accréter, ouais, justement, tout ce gaz. Et c'est vrai que, alors, pour revenir à ce grand chambardement, qui est avec, finalement, effectivement, hein, c'est un peu une grosse boule de bowling qui a tapé dans toutes les quilles, c'est ça qui est génial d'étudier, notamment la ceinture d'astéroïdes, c'est que dans la ceinture d'astéroïdes, on a un peu de roches qui sont formées très proches et un peu de roches qui sont formées très loin. Et donc, finalement, on pensait que tous les astéroïdes se ressembleraient. Finalement, pas du tout.
On a
donc
des échantillons d'un peu partout, du coup, qui se retrouvent au même endroit.
Et quand on étudie les météorites, effectivement, bah, ces météorites viennent de cette ceinture d'astéroïdes et on observe une grande diversité de tous ces corps. Et donc, c'est ce qui fait, finalement, bah, chose incroyable d'étudier les astéroïdes, c'est qu'on a une grande diversité géologique. Et évidemment, c'est un orgasme géologique pour le géologue que je suis.
Un orgasme géologique, carrément, comme vous y allez. Allez, on va aller du côté de nos plus proches voisines. D'un côté, il y a Vénus, de l'autre il y a Mars, toutes les deux très différentes dans leur genre et très différentes de la Terre. On commence par Vénus.
France Inter.
La sonde européenne Vénus Express nous donne des nouvelles de notre ancienne sœur jumelle, car la planète Vénus avait à l'origine beaucoup de points communs avec la Terre. Aujourd'hui, c'est une autre affaire. Vénus est un enfer de chaleur et d'acidité. Entre autres plaisirs, il fait une chaleur de 450 degrés à sa surface. Les relevés de la sonde européenne sont analysés aujourd'hui dans la revue Nature. Quand, pourquoi et en combien de temps Vénus s'est-elle transformée ?
En voilà une bonne question que vous pose Bruno Duvic. Pourquoi Vénus a évolué si différemment de notre planète, alors que la Terre et Vénus, au départ, on a l'impression qu'on part à peu près de la même chose et on arrive à deux situations totalement différentes. Daniel Estrofer.
Effectivement, d'ailleurs, lorsque l'on parle aussi des exoplanètes, on va parler de zones habitables. C'est une région à une certaine distance de l'équateur où on peut avoir de l'eau liquide sur des planètes telluriques. Et aussi bien Mars que Vénus et la Terre sont assez proches. Bon, la Terre est bien sûr dans la zone habitable, mais les deux autres planètes telluriques qui ressemblent beaucoup à la Terre sont assez proches elles aussi. Ouais. Sur Vénus, il fait très chaud. Donc ici, en France actuellement aussi, il fait chaud. Mais
ouais, là, c'est dans d'autres proportions.
Là, c'est bien sûr d'autres proportions.
Mais on est à 400 degrés, des pressions incroyable, écrasante, hein, je sais plus, mais c'est 400 atmosphères sur Vénus. Il pleut de l'acide sulfurique. Enfin bon, l'effet de serre est maximal. Après,
donc les atmosphères sur les autres planètes sont en général pas très hospitalières. L'atmosphère sur Vénus est effectivement très dense et il fait même plus chaud finalement sur Vénus que sur Mercure, qui est encore plus proche du Soleil. Mercure a des grandes différences de température, mais Vénus, il y a cette atmosphère qui a engendré l'effet de serre. Et donc c'est aussi pour cela que c'est intéressant et très important d'étudier cette atmosphère, cette planète. Parce qu'on est en train de peut-être subir des effets similaires sur la Terre avec le réchauffement climatique.
Ouais, on n'en est pas encore à devenir...
On n'est pas encore là, mais on pense que c'était peut-être un phénomène un peu similaire où ensuite il y a eu un emballement de cet effet qui fait que les températures commencent à rester très haute pendant longtemps.
Mais c'est quoi ? Il faut l'entendre comme une sorte d'effet papillon, c'est-à-dire qu'on part de la même situation, il y a une petite variation au départ et des milliards d'années après, on se retrouve dans des situations radicalement différentes, Sylvain Boulet.
Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a trois planètes vraiment qui se ressemblent certainement. Vraiment, il y a 4 milliards d'années, on pense que sur les trois planètes, il y avait de l'eau liquide qui coulait à la surface et effectivement...
Sur Vénus, sur la Terre et sur Mars.
Forcément qu'il y avait un océan d'eau liquide à cette période-là. Et effectivement, le climat s'est complètement emballé, en fait, lié notamment à un fort volcanisme. On sait que Vénus a connu un très fort volcanisme à la surface. Aujourd'hui, si on regarde la surface, on voit quasiment plus les cratères qui existaient il y a 4 milliards d'années. Il y a eu un resurfaçage total de la planète. Et effectivement, cette planète a connu un dégazage énorme qui aujourd'hui nous permet de voir cette énorme atmosphère. Et le climat a changé, du coup, complètement changeant le destin de cette planète. Et effectivement, ne ressemble plus du tout à la planète Terre.
Mais alors, s'il y a eu des océans sur Vénus, sur la Terre, ils y sont toujours, et sur Mars, ça a duré combien de temps ? À quel moment on a eu trois planètes bleues dans le système solaire ?
Alors, exactement, ça, c'est difficile à prévoir, mais c'est vrai que quand on regarde sur Terre, on sait que l'eau est apparue, on sait qu'on parle d'océan autour de 3,8 milliards d'années. Sur Mars, c'est exactement à cette période-là où on parle d'océan également, et sur Vénus, c'est à peu près à cette période-là. En fait, on peut parler de l'origine de l'eau, hein, c'est à ce moment-là où effectivement, on pense que notamment les astéroïdes et éventuellement les comètes ont apporté beaucoup d'eau à la surface des surfaces planétaires. Et effectivement, on est dans une période, notamment avec le bombardement tardif. En tout cas, on pense qu'il y a eu autour de 3,8 milliards d'années un bombardement d'astéroïdes permanents.
Mais qui venaient d'où alors ces astéroïdes permanents?
Eh ben ces astéroïdes, alors ça c'est une autre théorie, c'est-à-dire que on pense que ça c'est une hypothèse qui est un peu remise en cause, qu'on a donc notamment ce qu'on appelle le bombardement tardif, ouais. Et toujours avec ces effets gravitationnels. Alors au tout début, il y a Jupiter et Saturne qui ont migré, et en fait Jupiter et Saturne ont continué de bouger dans le système solaire, et à un moment donné ont complètement déstabilisé Uranus et Neptune qui se sont barrés très loin dans le système solaire, et à ce moment-là ça a été encore un coup de bowling, et il y a des corps qui sont revenus sur les planètes telluriques, et on pense qu'à ce moment-là il y a eu effectivement un bombardement important qui était 20 000 fois plus important que ce qui existait auparavant.
Mais dites-moi, ça s'est fortement calmé ou c'est juste que ça se joue à des échelles de temps différentes? C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai l'impression que chaque planète est à sa place et qu'elle y est pour un moment et qu'elle ne bouge plus. Est-ce que si on prolonge l'histoire dans quelques milliards d'années, on a de nouveau ce genre d'événements qui peuvent se produire, Daniel Estrofer?
Peut-être pas des événements similaires, mais on a montré que en termes d'évolution, les planètes extérieures, les planètes gazeuses sont stables, leurs orbites sont stables, elles vont varier mais peu. Alors que pour les planètes intérieures, ces orbites-là peuvent avoir encore des grandes variations. Et puis lorsqu'on parle aussi de l'obliquité des planètes...
Alors ça c'est quoi l'obliquité?
Alors l'obliquité, oui, effectivement, c'est un terme un peu technique. Ouais. C'est l'inclinaison de l'axe de rotation des planètes par rapport à leur orbite. Mmh. Toutes les planètes tournent à peu près dans le même plan, donc vous pouvez imaginer l'axe de rotation qui en général est perpendiculaire à ce plan de l'orbite. C'est la chose.
Nous on est un peu inclinés.
Nous on est inclinés. D'ailleurs, c'est ce qui engendre les saisons. Mmh.
C'est pas le cas pour les autres planètes. Vénus.
Elles ont toutes une inclinaison. Même les planètes gazeuses ont une inclinaison. Et cette inclinaison, alors pour Mars, va varier au cours du temps. Hein. Et puis les orbites aussi peuvent varier. On peut même, il y a des scénarios. Enfin, donc. Si on fait des simulations numériques sur les évolutions de ces orbites, on peut même imaginer certaines collisions entre des planètes. Mmh. Les obliquités aussi vont, donc ces inclinaisons de l'axe de rotation aussi, peuvent varier de façon assez conséquente. Mmh. Pour la Terre, c'est la Lune qui stabilise un peu cette obliquité, donc qui fait qu'il n'y a pas de grosses variations climatiques sur des longues échelles de temps.
Vous venez de citer la Lune, Daniel Estrofer. Dans un instant, nous allons nous intéresser à cette grande absente de nos discussions jusqu'à maintenant. Elle pourrait sembler insignifiante hein, à l'échelle de tout le système solaire, mais étant plus proche de nous, sa présence n'a rien d'anecdotique. On va s'intéresser à ce satellite naturel. Nous allons revenir sur le scénario de sa formation, le temps d'un bivouac sur France Inter.
Je suis né avec des yeux d'ange et des fossettes creux des joues. J'ai perdu mes joues et mes langes et j'ai cassé tous mes joujoux. Je me suis regardé dans une glace. J'ai vu que j'avais rêvé. Je me suis dit, faudra bien que je m'efface. Tout finira par arriver. Et je m'en vais clopin, clopin, dans le soleil et dans le vent. De temps en temps, le cœur chancelle. Y a des souvenirs qui s'amoncellent et je m'en vais clopin, clopin, en promenant mon cœur d'enfant comme s'envole l'hirondelle. La vie s'enfuit à tire d'aile. Et ça fait mal au cœur d'enfant qui s'en va seul, clopin, clopin.
La voix chaleureuse d'Henri Salvador, clopin, clopant, le temps d'un bivouac sur France Inter.
Là, vous avez devant vous une partie seulement des installations du centre de recherche atomique de Zborg.
Très impressionnant.
Mais ça sert à quoi tout ça?
Oh, j'y viens, capitaine, j'y viens. Asseyez-vous, s'il vous plaît. On m'a confié la direction de la section astronautique. Nous sommes en train de mettre au point une fusée à propulsion atomique.
Une fusée? Mais pourquoi faire?
Pour aller sur la Lune, bien sûr.
Eh oui, nous aussi, on va sur la Lune, bien sûr. Maintenant avec Daniel Estrofer, astronome à l'Observatoire de Paris, et Sylvain Boulet, planétologue qui a dirigé la rédaction du livre « Impact des météores au cratère » chez Belin. La formation de la Lune, justement, c'est la résultante d'un impact. Ça a tapé fort, Sylvain Boulet.
Alors, l'histoire de la Lune, c'est finalement notre histoire à nous, parce que on se pose encore la question de comment vraiment s'est formée la Lune. Depuis des décennies et décennies, à un moment donné, on pensait que la Lune était un morceau de la Terre arraché, on a pensé que c'était un corps qui passait du côté de la Terre et puis qui avait été capturé. Et puis au final, le seul vraiment scénario qui semble marcher aujourd'hui, c'est celui d'un impact, effectivement, d'un corps qui faisait peut-être la taille de Mars, et puis qui est venu impacter la proto-planète Terre. Ouais. Et de cette collision, eh bien, est née la Lune. C'est-à-dire que de cette collision gigantesque, on a fondu une grosse partie de la Terre, on a pulvérisé la proto-Lune, qu'on appelle Theia, en fait, cet impacteur. Et à partir de ça, de cette collision, on a eu un énorme disque de matière qui s'est mis à tourner autour de la planète Terre et on a formé la Lune.
D'où venait-il cet impacteur Theia?
Alors Theia, c'est encore un mystère et on peut remettre même en cause Theia parce que récemment même on pense qu'au lieu d'avoir un seul impacteur, on aurait pu avoir plusieurs petits impacteurs qui devaient être quand même dans le coin de la planète Terre parce que finalement la signature chimique, géologique de ce corps devait pas être très très loin de la planète Terre. Donc on a des similarités, il faut quand même se rappeler que la formation de la Lune, c'est entre 4,4 et 4,5 milliards d'années, donc dans les tout premiers instants de la Lune et du système solaire. Et à cette époque-là, c'est quand même pas très fréquentable l'endroit. Hein. Donc évidemment, il y a beaucoup d'objets, beaucoup de collisions. Et voici l'objet d'une collision où on a créé notre satellite. Ouais. Et je tiens à le signaler quand même que la Lune est le seul satellite aussi gros autour d'une planète tellurique, une planète solide. Donc on a de la chance d'observer cette Lune autour de nous, dans notre ciel, là, en ce moment.
Alors,
profitez-en.
On a de la chance de l'observer. Est-ce qu'on a de la chance aussi qu'elle soit là, ne serait-ce que pour l'apparition de la vie? C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de l'inclinaison de la planète, de notre planète. Est-ce que la présence de la Lune stabilise un peu le dispositif, Daniel Estrofer?
Alors, la présence de la Lune stabilise le dispositif de cette inclinaison et donc pour le climat qu'il fait sur Terre, effectivement, c'est très important. Ouais. Elle ne nous protège pas tellement d'autres impacts qu'on pourrait avoir de géocroiseurs actuellement.
Ouais. Les géocroiseurs, ce sont des astéroïdes qui pourraient rentrer en collision avec la Terre.
Qui ont une orbite proche de la Terre. Pour cela, non, ça ne nous protège pas spécialement.
Ouais. Elle s'éloigne de nous de 4 cm par an, c'est vrai?
Absolument, oui.
Mais ça veut dire qu'un jour, elle ne sera plus là ?
Elle sera toujours là. Alors, c'est aussi un processus gravitationnel et dynamique assez complexe, difficile d'expliquer à la radio sans faire de figure. Mais il y a un phénomène qu'on appelle le phénomène de marée, donc comme les marées des océans sur Terre, hein, qui sont liées à la Lune, qui font que la rotation de la Lune va se stabiliser. D'ailleurs, on voit toujours qu'une seule face de la Lune.
Oui. Hein,
donc ça, si vous avez
la fameuse face cachée de l'autre côté.
On ne la voit pas, elle est toujours cachée, on voit toujours la même face de la Lune, parce que la Lune tourne sur elle-même à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre, et donc elle nous montre toujours cette même face. Et si vous avez occasion d'observer la Lune au télescope aux jumelles, vous le verrez bien.
Ouais. Ça c'est une passe pour Sylvain Boulet.
Pour tout à l'heure, mais je continue encore avec l'évolution de la Lune, qui en même temps s'éloigne maintenant en plus, et donc la Terre ralentit aussi sa rotation. Donc au bout de quelques milliards d'années, on va arriver, peut-être personne ne pourra l'observer parce que la Terre ne sera plus là, mais et la Terre et la Lune tourneront toutes les deux à la même vitesse. Donc on aura une hémisphère de la Terre qui verra toujours la même face de la Lune et un autre hémisphère de la Terre qui ne verra plus la Lune.
Ah oui, d'accord. Alors la Terre sera toujours là, mais quand vous dites personne ne sera là pour le voir, il n'y aura peut-être plus la vie ou en tout cas plus les humains
pour... Parce que... peut-être pas être trop tragique non plus, mais le Soleil, on l'a dit tout au départ, a une naissance et va avoir une fin dans quelques milliards d'années. Oui. Et il va complètement englober les orbites des planètes telluriques.
D'accord, donc peut-être que le Soleil sera mort avant que cette synchronisation avec la Lune, qui ne bouge plus par rapport à une phase de la Terre, ne puisse se mettre en place. On n'arrive pas à le calculer plus précisément que ça. On ne sait pas quand ça va avoir lieu, cette synchronisation entre la Lune et la Terre.
Si, ça se calcule quand même. Bon, on a une évolution après qui... Bon,
on va vous donner une feuille et un crayon, vous allez nous calculer ça.
Le chiffre,
ça
tout à
l'heure. Vous allez nous calculer ça. Alors, pour observer la Lune, Sylvain Boulet, parce que c'était effectivement la référence que faisait Daniel Estrofer, vous invitez le grand public, vous adorez partager sur vos connaissances astronomiques avec le grand public. Et si on veut, je crois que ce sera à Paris, sur les quais de Seine, vous invitez le grand public à regarder la Lune.
Oui, régulièrement, on a avec un collègue, Jean-Philippe Usan, on s'est dit, on voudrait partager juste l'observation de la Lune, rien plus beau en fait que de voir des passants mettre un œil à l'œil oculaire et de s'extasier devant la beauté de la Lune. Elle est juste à côté de nous. C'est finalement le seul corps planétaire où on arrive à voir des cratères, des ombres qui se projettent, un cocher de imaginer sur le ce terminateur à la limite entre la phase éclairée et la phase lunaire. Imaginez-vous, vous êtes en train de assis sur ces montagnes lunaires, vous pouvez voir un lever de terre, un lever de soleil. Bref, la Lune, c'est finalement ce qui parle à tout le monde, et on est toujours étonné que de voir les gens s'extasier. Ouais. Effectivement, on est régulièrement sur les quais de Seine, Pont-Marie, devant la péniche du Marcounet, où on a installé notre télescope, et régulièrement, notamment le dimanche 22 juillet, eh bien on sera devant cette péniche et on partagera la Lune avec qui voudra.
D'accord, donc le 22 juillet, rendez-vous à qui veut. Il n'y a pas des attroupements, vous arrivez à gérer la foule?
Si, il y a des attroupements, mais c'est bien, c'est la Lune, c'est la rockstar de la soirée, et on en parle et puis finalement c'est sympa.
Daniel Estrofer, promenez-vous sur la Lune en fait. Voilà. On se promène.
On va s'y promener justement sur la Lune, vous croyez pas si bien dire. C'est le moment de retrouver notre chroniqueur Jérémy Querenet, fidèle au poste avec sa chronique en partenariat avec le CNES, l'agence spatiale française. Il nous propose un petit voyage lunaire.
Non, ça va pas du tout,
coupez! Arrête ton cinéma.
Aucun mot ne peut décrire ce que ça fait d'être ici. Formation rocheuse partout. Le soleil est bas sur l'horizon. C'est époustouflant.
Un visage jovial et ridé qui se prend une fusée dans l'œil. Ou alors des dunes de sable blanc qui cachent des grottes pleines de lave bouillonnante. Ou alors de grandes arêtes acérées et des canyons vertigineux. Ou alors un décor en noir et blanc, triste et désertique, où quelques cailloux semblent s'être perdus. Voilà à quoi peut ressembler la Lune dans les nombreux films qui nous y amènent en voyage.
La face cachée est d'une beauté étrange. Je sais pas si c'est mon esprit qui me joue des tours, mais chaque fois que je regarde par ces petits hublots, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'observe. Quelque chose dans le noir qui me regarde.
1902, c'est déjà le premier grand succès pour la Lune au cinéma avec Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès. Adapté du pourtant très scientifique Jules Verne, le film fait aujourd'hui plutôt figure d'une douce rêverie spatiale. On se rend sur la Lune en haute forme, on y respire à l'air libre et on y trouve des champignons et des sélénites, le nom des habitants de la Lune. 3, 2, fire. Dans les années 30, certains films commencent à prendre les choses plus au sérieux. Pour l'écriture de La femme sur la Lune en 1929, Fritz Lang s'entoure d'un conseiller scientifique. On y assiste au lancement plutôt crédible d'une fusée. Fritz Lang s'est beaucoup vanté par la suite d'avoir inventé dans ce film le compte à rebours, qui depuis est repris pour chaque lancement, avec l'intuition que ça rendrait le décollage plus émouvant. Et le cinéma lunaire va continuer d'évoluer au fil de l'arrivée de nouvelles connaissances scientifiques. En 1936, dans le film russe Le Voyage cosmique, on découvre des astronautes qui, cette fois-ci, ont besoin d'un scaphandre pour déambuler sur la Lune.
By the grace of God, and the name of the United States of America, I take possession of this planet on behalf of and for the benefit of all mankind.
Dans les années 50, la vraie course à la Lune est lancée entre soviétiques et américains et les studios de cinéma prennent une longueur d'avance. C'est sûrement la décennie où la Lune est la plus régulièrement en haut de l'affiche. Destination Moon, par exemple, est un film hollywoodien étonnant de sérieux et de pédagogie, mais aussi d'idéologie, capitaliste et libérale. C'est un consortium de chefs d'entreprise qui décide de se lancer dans la construction d'une fusée. Il parle de la nécessité de prouver la grandeur de l'industrie américaine, d'investir là où l'État n'osera jamais le faire, et même de cette bête opinion publique qui a peur de quelques fuites radioactives. En gros, à l'époque, il ne fait aucun doute que l'homme ira bien se poser sur la Lune. La seule question, c'est qui va payer le voyage. Il faut dire que Destination Moon sort en 1950. On est 8 ans avant la création de la NASA.
L'énergie du Soleil, piégée dans la roche et extraite par des machines sur la face cachée de la Lune. L'énergie de la Lune.
En 1969, le réel gagne la partie. Les premiers pas d'Armstrong sur la Lune et les innombrables images tournées sur place vont grandement ralentir la production de fiction sur ce sujet. Pour la sortie de 2001, l'Odyssée de l'espace, en 68, Kubrick craignait, paraît-il, de se faire éclipser par l'annonce d'un vrai alunissage qu'il a devancé donc de quelques mois seulement. Mais étonnamment, même si la Lune n'est plus la star qu'elle était dans les années 50, aujourd'hui encore, elle renaît régulièrement de ses cendres. Elle était récemment le personnage central d'Apollo 18, le point de départ de Transformers 3 ou le décor du film Moon. Dans ce film, signé par le fils de David Bowie, il n'est plus question cette fois-ci de rencontrer des sélénites, ni de récupérer de l'or lunaire, ni même de planter un drapeau. Dans Moon, la Lune est devenue une grande carrière d'où l'homme tire une énergie très utile pour la Terre. Avec les années, les inquiétudes terrestres changent, les enjeux politiques évoluent, mais quel que soit le sujet, notre vieille Lune reste un décor de cinéma fascinant.
Merci Jérémy Querené et à la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver la chronique de Jérémy et d'autres infos complémentaires sur le site du CNES, l'agence spatiale française dont nous sommes partenaires, cnes.fr. Sylvain Boulet, c'est notre satellite naturel qui nous, vous disiez, hein, la star, il est un peu en raccord avec vous, hein, Jérémy Querené. Ça nous fait toujours autant fantasmer cette Lune.
Et ça a fait fantasmer des générations et des générations d'astronomes ou voilà, de personnes qui aimaient observer la Lune depuis des siècles et des siècles. C'est vrai que quand on observe la Lune, eh bien, on a un sentiment de famille, on a vraiment l'impression d'avoir une deuxième patrie qui est au-dessus de notre tête. Et c'est vrai que ça a été le cas depuis qu'on a commencé à cartographier la Lune, hein, au XVIIe siècle. Et puis après, quand on a vu, quand on avait des instruments de plus en plus perfectionnés, on a vu ces formations qui avaient une forme d'anneau. S'est imaginé, bah voilà, qu'il y avait des habitants qui étaient là pour construire ces anneaux. Donc il y a des grandes descriptions qui rappellent qu'il y a des fonderies, qu'on voit la fumée sortir des trous absolument incroyables. On imagine que sur la Lune, on voit un cratère qui s'appelle Tycho avec des raies. On s'imagine que le cratère Tycho, c'est la capitale, que tout sur ces raies, en fait, c'est des routes qui viennent tout simplement bien nous permettre d'aller vers d'autres villes. Et puis la Lune, encore il y a 100 ans, hein, on pensait que la Lune était habitée, que les mers lunaires étaient des grandes forêts, qu'il y avait des forêts de peupliers, de séquoias partout. Les grands cratères, on savait pas que c'était des cratères d'impact, on pensait que c'était des volcans. Donc il y a un siècle, on ne savait rien de la Lune. Ouais. Et encore il y a 50 ans, avant les premières explorations lunaires, on avait encore des doutes sur véritablement ce qu'était la Lune. Ouais. Et donc elle inspire, et finalement, c'est pour ça on continue de l'observer, on a envie d'y aller, et on parle aujourd'hui de plus en plus de villages lunaires. Hein. L'Agence spatiale européenne a envie d'y aller, et puis plein d'autres agence. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines décennies? Vivement nos prochains voyages.
Ouais, et puis en plus, on a la chance d'appartenir à une époque, à une génération où on a enfin pu voir la face cachée de la Lune. On a pu envoyer des sondes, des satellites qui ont pris des photos et on peut la voir sur nos écrans d'ordinateur. Hein, vous tapez dans un moteur de recherche face cachée. On a tous accès aujourd'hui à la face cachée de la Lune. On a une chance incroyable.
Tout à fait. On est les premières générations à voir cette face cachée, à voir qu'elle est complètement différente d'ailleurs, parce que sur la face visible, on a ces mers lunaires qui correspondent au grand bassin d'impact rempli de lave. Si vous allez sur la face cachée, vous voyez des gros cratères d'impact, mais vous ne voyez pas de mer lunaire.
Ouais. Donc comment ça s'explique que les deux faces soient si différentes?
Eh bien, en fait, d'un point de vue géologique, on a eu la croûte lunaire est beaucoup plus épaisse sur la face cachée que sur la face visible. Tout ça lié notamment certainement à un phénomène de marée, de synchronicité avec la Terre. Et du coup, on n'a pas eu de phénomène de fusion de lave qui est apparu sur la face cachée. Mmh. Et donc, du coup, on n'a pas ces fameuses mers lunaires sur la face cachée.
Daniel Estrofer, il y a d'autres satellites aux autres planète. Alors, Mercure n'a pas de satellite, Vénus
non plus.
Mais
avec Mars, première planète tellurique, il y a aussi des satellites.
Deux satellites,
plus petits que la Lune, et de forme beaucoup plus irrégulière. Plus ils sont petits, et moins ils vont être réguliers. Qu'on suppose aussi être formés suite à un autre impact, avec un autre planétoïde qui aurait impacté Mars, mais qui aurait donc générer des satellites beaucoup plus petits. Peut-être que l'impacteur était moins gros. Après, il y a beaucoup de satellites autour des planètes gazeuses. Il y en a plus de 60 autour de Jupiter et de Saturne, avec des lunes qui sont très grandes aussi, hein, pour les satellites galiléens autour de Jupiter qui ont été découverts par Galilée en 1609. Vous avez là des lunes Io, Europe, Ganymède, Callisto, qui sont à peu près aussi grandes que Mercure ou que notre Lune, voire plus.
Qui intéresse beaucoup les scientifiques parce que on commence à se demander si des traces de vie ne pourraient pas exister dans les océans souterrains internes de ces satellites. Tout d'un coup, ça devient l'endroit à la mode qu'il faut aller explorer. À la mode, c'est péjoratif. Ça devient l'endroit qui fait rêver.
Je ne sais pas si c'est tellement péjoratif à la mode, mais effectivement, il y a certains objets sur lesquels on va concentrer nos efforts pour trouver de l'eau liquide et des traces de vie. Et parmi ces satellites, qui sont donc des satellites glacés, il pourrait y avoir de l'eau liquide et éventuellement des possibilités d'avoir de la vie d'origine, de vie sur ces objets.
Ouais, on aura peut-être l'occasion d'en parler dans la dernière partie de cette émission. Et puis, on s'interrogera aussi au sujet de cette hypothétique 9e planète du système solaire. Très lointaine, gigantesque, que certains scientifiques pensent entrevoir.
Rends-toi au point où convergent les forces gravitationnelles et ta planète, tu trouveras.
Disappointing Diamonds, c'était Father John Misty sur France Inter, le temps d'un bivouac.
France Inter.
Faudra-t-il bientôt réviser tous les manuels scolaires? Une petite nouvelle fait son apparition dans notre système solaire. Petite façon de parler, elle est 10 fois plus lourde que la Terre, mais elle serait bien la 9e planète de notre système. Ce sont des astronomes américains qui viennent de publier le résultat de leurs recherches. Ils n'ont pas réussi à l'observer pour l'instant, mais leurs ordinateurs sont formels. Elle existe bel et bien.
C'est une planète solide, géante, 10 fois la masse de la Terre, avec sûrement un cœur de glace. Elle est très loin de nous, encore plus loin du Soleil que Neptune. Il lui faut, ont calculé les deux chercheurs américains, 20 000 ans pour faire le tour du Soleil. S'ils ne l'ont pas vue dans un télescope, comment peuvent-ils prétendre qu'elle existe ?
Nous étions le 21 janvier 2016 dans le journal de 8h de France Inter où l'on se pose les bonnes questions avec Sylvain Boulet, planétologue, et Daniel Estrofer, astronome. Est-ce qu'il y a cette 9e planète et comment les astronomes en sont venus à la conclusion qu'elle existe peut-être, Daniel Estrofer ?
Effectivement, c'est une hypothèse. On suppose que cette planète existe parce que on a mesuré les positions d'autres objets qui sont derrière Neptune, des transneptuniens, et en On a remarqué, donc, ces chercheurs américains de Caltech, en Californie, ont remarqué qu'il y avait un certain alignement avec ces orbites, en particulier leur périhélie, le moment où ils sont le plus proches du Soleil. Et une des explications plausibles, c'est d'imaginer qu'il y a une planète assez massive, donc 10 masses terrestres, à ces distances éloignées du Soleil, qui pourrait expliquer ce phénomène. Mais on n'a pas encore observé cette planète.
Voilà, c'est ça.
Et d'une certaine manière, la planète 9, c'était Pluton pendant un moment. Donc on a déjà changé l'ensemble des manuels scolaires pour la détrôner.
Pour d'autres raisons, hein. Pluton, c'est pas qu'elle a disparu, c'est pas qu'on s'est trompé, c'est juste qu'on s'est dit à un moment donné, elle est trop petite et il y en a beaucoup qui ressemblent autour, donc plutôt que d'allonger de 100 le nombre de planètes, on va dire que Pluton est une planète naine. Il y a juste les Américains que ça a un peu froissé parce que c'était la seule qu'ils avaient découverte, Sylvain Boulet.
Ouais, tout à fait, ils sont toujours froissés, mais bon, c'est pas grave, hein. Ils vont s'en remettre et puis effectivement, il y a toutes les raisons, on a plus une seule Pluton, on a des centaines de corps qui ressemblent à Pluton, peut-être un peu plus petit. Pluton quand même reste une planète naine, un corps quand même qui est assez gros dans le coin, mais qui n'a pas le statut de planète principale en tout cas.
Est-ce qu'il y a une chance qu'on la voit, la neuvième planète hypothétique, avec des télescopes plus puissants peut-être qu'on arrivera à mettre au point?
Même avec les hypothèses qu'ont donné nos collègues américains, elle est visible dans nos télescopes actuellement, mais disons que l'immensité du ciel est très grande. Donc
serait visible si on arrive à pointer le télescope.
Trouver le bon endroit.
Dans la bonne direction.
La difficulté, si elle existe, elle serait visible, étant donné sa masse, sa brillance.
Bon, donc on le saura un jour, parce qu'à force de faire des calculs, on va affiner sa possible position, on va bien braquer le télescope et on verra si elle existe ou pas. On va avoir la réponse à cette énigme.
Si vraiment elle existe. Oui, mais d'un autre côté, on pense aussi que peut-être il y a certains biais qui font que ces alignements d'orbite ne sont pas vraiment dus à la présence de cette planète, mais peuvent être dus à d'autres phénomènes observationnels.
Alors, des questions d'auditeurs qui arrivent pour vous, et notamment Céro qui vous demande sur Internet, pouvez-vous chiffrer le volume d'eau apporté par les comètes et celui dégazé par les roches?
Alors ça, c'est une très bonne question. Il y a énormément d'incertitudes. En fait, on pensait à une époque que les comètes étaient principalement le réservoir de l'eau. En fait, notamment avec la mission Rosetta, on s'est rendu compte que l'eau des comètes était un peu différente de l'eau terrestre. Et donc aujourd'hui, on revoit un peu notre copie en disant que c'était plutôt les astéroïdes qui auraient amené à l'eau, qui effectivement, l'eau des astéroïdes ressemble assez à l'eau de la Terre. Effectivement, il y a aussi de l'eau qui devait être là au moment de l'accrétion. Et donc aujourd'hui, encore beaucoup trop d'inconnus. C'est certainement un mélange des deux. Et en quelle proportion, pour l'instant, c'est extrêmement difficile de résoudre cette question.
Peut-être qu'on peut aussi rajouter qu'en termes de masse, la quantité d'eau qu'il y a sur Terre est finalement assez faible, hein. Elle recouvre une grande partie de la surface. Mais cette quantité-là, si on la compare à l'ensemble de la masse de la Terre, elle reste faible et on ne sait pas exactement quelle est la proportion qui vient directement des astéroïdes et comètes.
Rapidement, Oscar vous demande, y a-t-il des saisons sur les planètes gazeuses ?
Alors, c'est ce qu'on appelle une saison, ce qui est lié donc à cette inclinaison des axes. Il y a aussi des saisons sur les planètes gazeuses, sur toute planète. Alors, après, les répercussions que cela peut avoir en fonction des mouvements des atmosphères va être très différent.
Sur Jupiter, hein, l'obliquité est quasiment nulle. Donc, par exemple, sur Jupiter, il n'y a pas de saison. Et d'ailleurs, ça me rappelle une petite anecdote. À la fin milieu du XVIIIe siècle, il y a un scientifique qui a dit, comme il n'y a pas de saison, pas moyen de faire pousser du blé, donc il n'y a pas d'habitants sur Jupiter.
Ah ben voilà. Comme quoi, des fois, il y a des raisonnements simples qui aboutissent à des conclusions valables.
Si on continue avec ces petits cas un peu particuliers, Uranus a une obliquité de 90 degrés, donc son axe de rotation est couchée dans le plan, elle a aussi des phénomènes de saison qui sont encore très particuliers avec des années qui durent 80 ans.
Mais toujours pas de champ de blé. Allez, je vous présente notre invitée de la deuxième heure, Dorine Bourneton, pilote de Voltige, qui nous emmène cet été sur France 5 découvrir le monde à tire d'aile. Particularité qui ne se voit pas à la radio, vous êtes la première femme handicapée pilote de Voltige. Votre avion a dû être adapté pour que vous puissiez le piloter sans l'usage de vos jambes. C'est donc entièrement avec les mains que vous pilotez. Bonjour Dorine Bourneton. Soyez la bienvenue, on est impatients de monter à bord de votre avion pour découvrir le monde. Merci à vous Sylvain Boulet et Daniel Estrofer. Je rappelle le titre de votre livre Sylvain Boulet, Impact des météores au cratère. C'est paru aux éditions Belin. Et avec vous, Dorine Bourneton, on prend la voie des airs dans un instant. À tout à l'heure.
Avec plaisir.